Je vous salue à tous mes frères et sœurs. Nous allons ouvrir le Saint-Livre avec beaucoup de respect. Voilà, les chewing-gums sont dans les Kleenex. Et on ouvre le Saint-Livre dans Ésaïe au chapitre 53. Vous connaissez ce chapitre qu'on utilise communément pour les pécheurs. Mais je crois que de temps à autre, il est nécessaire que nous le relisions parce qu'il ne s'adresse pas qu'aux pécheurs, il ne s'adresse pas qu'aux juifs. Ce texte s'adresse aux chrétiens. Ésaïe, chapitre 53, verset 1er. Tout à l'heure, quelqu'un a prié, il y a même une prophétie. Est-ce que vraiment c'est votre souci que Dieu vous parle? Vraiment, répondez sérieusement, parce que c'est... Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une parole de Dieu pour savoir où nous en sommes? Ésaïe 53, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Alors c'est un peu le titre de ma prédication, « Nous n'avons fait de lui aucun cas ». Vous allez me dire, mais monsieur Gau, ça ne s'adresse pas à nous. Alors on va le voir sérieusement. Dans la parole de Dieu, il y a des textes difficiles, très difficiles. Il y a des textes très souples, très faciles. Il y a des textes difficiles. Ces textes-là, ils sont pour tout le monde aussi. Et on va en lire un dans le prophète Sophonie. C'est quelques livres après, dans les petits prophètes qu'on appelle. Dieu parle d'une manière très sévère. Vous allez voir pourquoi. C'est important que nous... C'est des textes qu'on ne lit jamais dans les églises. Et je comprends pourquoi. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous l'expliquer. Dans le prophète Sophonie, il y a quelque chose qui ne va pas dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne le sait pas. Et Dieu explique d'une manière sévère, mais d'une manière... C'est un processus. C'est un processus qui s'est installé dans le cœur des chrétiens et qui les éloigne de Dieu. On va le lire. C'est sûr que si vous le lisez pour la première fois, vous ne les comprendrez pas, mais j'essaierai de vous l'expliquer. Sophonie, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, verset 2. « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas, silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. » Qu'est-ce qu'indique ce texte? Peut-être que vous dites, mais j'ai rien compris. Et je vous assure que dans ce texte, il y a des choses à comprendre. C'est vrai que c'est un texte, j'ai hésité. J'ai hésité avant de vous le lire, parce que c'est un texte qui fait peur. Mais c'est un texte qui indique ce qui se passe quand on commence à se relâcher, à s'éloigner de Dieu imperceptiblement. Doucement, inexorablement. Des textes comme ça, il y en a beaucoup. Et Ésaïe, qu'on a lu en premier, 53, exprime bien ce qui se passe quand on est indifférent aux choses de Dieu. Ils n'ont fait de lui aucun cas. nous l'avons dédaigné. Il faut que nous sachions si dans notre cœur, insidieusement, doucement, nous ne sommes pas entrés dans un processus d'indifférence, de mépris, vous allez me dire, oh non, on n'en est pas là, de dédain, rien pour nous plaire, je ne sais pas comment vous avez pris la Sainte-Seine, il n'y a que Dieu qui l'a vu. Est-ce que vous étiez d'accord avec ce qui a été dit? Que le fait de prendre la Sainte-Seine dans cet état de grâce est également un processus, Jonathan nous l'a rappelé, un processus qui peut s'enclencher de paix en paix, de sainteté en sainteté, qui amène une véritable communion. Mais là, nous voyons exactement l'inverse, ce qui se passe. Il y a également un processus où on peut s'éloigner de Dieu et en avoir des conséquences terribles. On peut vite faire une comparaison dans un couple. Dans une famille, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait de l'indifférence? Est-ce que d'un homme peut avoir de l'indifférence vis-à-vis de sa femme? Est-ce qu'une femme peut avoir de l'indifférence? Pas du mépris, peut-être les mots, on ne les explique pas trop, ce n'est pas le but de ce matin. Mais quand même, vous savez ce qui se passe quand dans un couple il y a de l'indifférence. Quand des parents sont indifférents vis-à-vis de leurs enfants, etc., etc., qu'est-ce que ça produit? Beaucoup de dégâts. Et on sait, hélas, les conséquences. Vraiment, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup hésité. Parce que je pense que certains d'entre vous, nous, ne réalisons pas dans quel état nous sommes. C'est mon devoir en tant que pasteur de vous aider à vous examiner vous-même pour savoir si votre relation avec Dieu est en train de progresser ou si votre relation avec Dieu est en train de régresser. C'est mon devoir. Peut-être que vous ne le savez même pas. C'est mon devoir à moi. C'est pas à vous de discerner certaines maladies dans le corps. C'est à votre docteur de vous dire ça correspond à ce diagnostic correspond à telle maladie. Vous avez le droit de ne pas savoir. Moi, j'ai le devoir de vous aider. Lorsque les relations se dégradent avec Dieu, vous savez que le diable, il est rusé. Croyez-moi, il est beaucoup plus rusé que ce que nous pensons, beaucoup plus intelligent que ce que nous pensons. En tous les cas, ça commence avec une forme de dédain, pas volontaire, mais vous allez voir en conclusion que c'est ce qui se passe. Vous savez ce que ça signifie, Baal? Parce que là on dit, voilà, j'exterminerai, pourquoi Dieu j'exterminerai les restes de Baal? Vous savez ce que ça veut dire? Baal, ça veut dire maître et seigneur. Et possesseur. Vous pouvez regarder dans un dictionnaire. Hier, j'ai voulu vraiment vérifier pour ne pas faire d'erreur. C'est exactement ça. Baal, je ne sais pas si vous réalisez. Maître, seigneur et possesseur. L'indifférence est un mal qui ravage le monde, les couples, les églises. Le diable a utilisé cette petite difficulté pour faire des ravages terribles, parce que croyez-moi, c'est pas les grosses peaux de banane toujours qui se présentent, c'est insidieux, petit à petit. Vous avez vu comment ça commence? En tous les cas, ça finit par l'adoration de notre Seigneur, de notre Maître. Et Dieu explique, alors je vais vous expliquer un peu Sophonie, parce que c'est vrai que si vous l'avez lu pour la première fois, vous pouvez dire, qu'est-ce qui nous attend? Certains même auraient presque pu sortir. J'y ai pensé. J'ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir avant la fin de la lecture. Merci d'être respectueux. Pourquoi il y a de l'adoration de Baal? Parce qu'après tout, ces textes-là, il faut les expliquer, je dois vous les expliquer, pas d'une manière culpabilisante, d'une manière intelligente. On peut se demander pourquoi le peuple de Dieu en est arrivé à adorer un autre Seigneur, un autre Maître. Pourquoi? Pourquoi il y a de l'adoration de Baal? Alors, vous allez me dire c'est simple, mais justement, il faut que ce soit simple. Parce qu'il y a des prêtres de Baal. Mais pourquoi ils ont institué des prêtres de Baal? Vous comprenez, il parlait des ministres de Baal. Eh bien parce qu'ils ont commencé à se prosterner devant les idoles. Alors, pourquoi ils se sont prosternés devant les idoles? Ils sont tombés dans l'astrologie. Ils adoraient le soleil et les étoiles. Et j'espère, mes frères et sœurs, il y a des frères, je suis sûr, qui, pour s'amuser, consulteront à la fin du journal de la dépêche
Tiens, qu'est-ce qu'il dit l'horoscope? Ça commence comme ça.
Mais tu ne vas pas faire un flamme pour ça.
Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce sont des choses démoniaques.
Vous le croyez ou vous ne le croyez pas,
mais quand même, quand vous voyez des textes aussi sévères, n'oubliez pas, c'est signé Dieu, la parole de l'Éternel. Dit l'Éternel, plusieurs fois, il faut qu'on comprenne bien que Dieu a des choses à nous dire. Parfois, c'est archi sérieux. C'est archi sérieux. Pourquoi ils en sont arrivés, les croyants, à monter sur les toits pour adorer les idoles, les étoiles? Pourquoi? C'est écrit. Parce que leur cœur était partagé entre le Seigneur, avec un S majuscule, et un autre Seigneur. Entre le Maître, avec un M majuscule, notre Dieu, et le Maître du monde, Baal. Pourquoi était-il partagé? Pourquoi mon cœur est-il partagé? Eh bien parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu. Ils n'ont jamais abandonné les cultes, mais ils ne cherchaient pas Dieu. Ils se sont lassés de Dieu. Ils se sont lassés de ses conseils, ils se sont lassés de prédications comme celles que je suis en train de vous donner. Ils n'avaient pas envie d'entendre des paroles sévères, alors ça les a fatigués. Est-ce que les prédications sévères, vous allez voir qu'elle n'est pas sévère, elle est pleine d'amour. Est-ce que les paroles de Dieu qui sont sévères vous agacent? Bien sûr, s'il n'y avait que ça, je pense que ça ne serait pas sérieux. Mais ils étaient lassés, ils en avaient marre de ses conseils. Comme quand ils avaient la manne dans le désert, ils en avaient marre de cette misérable nourriture. Est-ce que vous en êtes là? Pourquoi ne l'ont-ils pas cherché? Vous voyez, en crescendo, en question. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'avaient pas soif. Et pourquoi ils n'avaient pas soif? Eh bien parce qu'ils l'ont méprisé. Voilà. C'est pour ça que j'ai lu ce texte dans Ésaïe. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Résultat, ils avaient un autre maître. Ils ne se sont peut-être même pas rendus compte. Ils avaient un autre seigneur, ils avaient un autre possesseur, Baal. Alors, soyons honnêtes, parce qu'on est devant Dieu, on se réjouit, on est devant sa face, même si Dieu utilise un homme, tout simplement, pour parler. On est quand même devant le Seigneur, devant sa parole. Alors, est-ce que sincèrement, mais je ne parle pas du culte, bien sûr, mais dans la vie, chez vous, est-ce que nous nous soucions de connaître le Seigneur? C'est quand même une question qui vaut la peine d'être posée. Est-ce que pour pas de demander la bénédiction, ça, demandez-la et vous avez le droit de la demander. Vous avez le droit à Dieu de demander qu'il bénisse vos enfants, etc., etc. Vous avez le droit. Je ne parle pas de ça, qui fait partie de ce besoin que l'on a de réclamer sa faveur, etc., et sa bénédiction. Vous avez le droit. Ce n'est pas de ça dont il est question. Je vous pose la question, est-ce que nous avons envie de connaître le Seigneur? Faisons-nous partie de ceux qui se trouveraient dans cette catégorie? Ah, mais moi je ne cherche pas Dieu, monsieur Gauche, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Si vous étiez à ma place, c'est facile, vous êtes pasteur, vous n'avez que ça à faire. Mais moi, je suis trop pris, suivez-moi. Et vous verrez que j'ai pas le temps de chercher Dieu. J'ai trop de travail. Non, c'est pas vrai. Si vous vous retrouviez dans cette catégorie, je vous dis, de la part du Seigneur, que vous êtes entré dans un travail de rétrogradation, dans un processus d'abandon. Je vous le dis, de la part de Dieu, quand je passerai devant Dieu, il faut que cela ait été dit. C'est que votre cœur est en train de redevenir indifférent. Vous êtes en train de le dédaigner. Mais non, il est hors de question, si vous saviez comment j'ai chanté ce matin. Je ne vous parle pas de ce matin. Je vous parle de votre cœur au quotidien, quand vous êtes seul. Est-ce que votre cœur a soif de lui, de dire « Seigneur, je t'aime ». Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un Baal qui aurait insidieusement, inconsciemment remplacé le véritable maître? Si j'ai soif de Dieu, soyons honnêtes, j'écoute ça, je le dis à moi, vous me connaissez, je le dis sérieusement, solennellement, je le dis. Mais Réagissons à cette introduction. Si vraiment, ça me corrige, ça m'aide, ça m'interpelle, ça, bon, qu'importe. Mais si j'ai soif de Dieu, je vais quand même modifier mon emploi du temps. Je vais me dire, bon, il faut que je revoie mes priorités. J'ai des priorités dans la vie, chacun a les siennes. Mais je vais revoir ces priorités. Il faut absolument que je me retrouve dans la présence du Seigneur, non pas des petits allers furtifs, 5 minutes pour demander à Dieu qu'il bénisse la journée, puis j'ai pas le temps, vite, vite. Mais que ce chant, si beau chant qu'on a chanté en dernier, vous rappelez le dernier chant qu'on a chanté dans la louange ? Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul. J'ai entendu chanter, vous avez chanté avec ferveur. Il est beau ce chant, hein ? Sinon, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas capables de prendre une décision dans ce culte, si nous sommes concernés, bien sûr, dire je vais revoir mes priorités. C'est ça, veillez, on va le voir à la fin. Je vais revoir mes priorités, c'est vrai, il a raison. Dieu a raison, de toute façon, même si je le dis mal. Il faut absolument que ce que j'ai chanté, je le vive. J'ai soif de ta présence. Sinon, écoutez-moi, l'indifférence, je préfère prendre des mots bibliques, le dédain, le mépris. On est malheureux quand un pécheur méprise l'œuvre de la croix, oui ou non ? Quand les gens se moquent, on dit, bon, quand même, quel dommage, quel aveugle. Mais mes frères et sœurs, quand nous sommes engagés dans ce processus où sans nous en rendre compte, nous commençons à avoir un autre Dieu que le vrai Dieu, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Eh bien, écoutez bien. Alors, la première question que je peux nous poser, pourquoi suis-je indifférent ? Pourquoi me serais-je mis petit à petit de nouveau à mépriser les choses de Dieu, à dédaigner les choses de Dieu ? Ben, ce n'est pas compliqué, c'est parce que le monde m'a trompé. Le diable est un voleur, le diable est un menteur. Et le diable, il fait tout pour nous séduire. Et combien de chrétiens devraient être ce matin dans les églises, à la même place que nous, en train d'écouter ces sermons pour faire des progrès, et ils ne sont pas dans la maison du Seigneur. Vous n'en connaissez pas des gens qui devraient être là ce matin ? Sérieusement, vous n'en connaissez pas des gens ? Et où ils sont ? Pourquoi le monde a-t-il cette influence ? Pourquoi les choses de la terre ont-elles ce pouvoir dans notre cœur ? C'est vrai qu'il y a Jésus en parle, les plaisirs du monde. Est-ce que dans le monde, il y a des plaisirs ? Est-ce que Jésus parle des plaisirs du monde ? Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y a des choses dans le monde qui sont de véritables plaisirs. On chante des fois, les plaisirs du monde ne m'attirent plus, mais ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui aiment les plaisirs du monde. Il y a des gens qui aiment les plaisirs de la vie. Luc chapitre 8. Le monde peut me détourner de Dieu. Ne parlons même pas du diable. Le monde peut me détourner de Dieu. Le diable, est-ce que le diable connaît la Bible ? Est-ce qu'il la connaît d'après vous ? Il la connaît bien sûrement. Certainement mieux que nous, et plus que moi c'est sûr. Et l'ennemi sait comment, écoutez bien parce que c'est en fin de compte la clé. L'ennemi sait très bien comment utiliser un verset pour nous décourager. Alors qu'en vérité, tel ou tel verset adressé par Dieu, de Dieu, devrait nous faire du bien. L'ennemi, une prophétie le disait ce matin, quelqu'un avait peur pour le prix à payer. Ça n'a pas été dit ce matin ? Le prix à payer. Lorsque l'ennemi arrive à nous faire voir les choses d'une mauvaise manière, prenons le verset le plus connu. Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais nous, on retient que la première partie, chercher d'abord le royaume de Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu, tu te rends compte ? Tu te rends compte ? T'as vu comment Dieu est dur ? Comment c'est difficile ? Il faut tout sacrifier. Il veut tout. Je ne peux pas, j'en peux plus. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Et l'ennemi, écoutez-moi bien mes frères et sœurs. L'ennemi, il est capable d'utiliser la première partie du verset, ce n'est pas la première fois qu'il l'a fait, il l'a même fait avec Jésus. Pour nous faire voir la volonté de Dieu comme quelque chose d'affreux, comme quelque chose de difficile, d'impossible. Alors, que lorsque quelqu'un est vraiment, je ne sais pas moi, simple devant Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Mettez-moi en premier. Mettez-moi d'abord en premier. Mais c'est pour notre bien. Et qu'est-ce qu'il dit après? Toutes choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans le toutes choses, au fait? Merci. Merci. Merci, monsieur Katéko, vraiment merci. Mais sérieusement, bien sûr, c'est vrai. Mais est-ce que nous pouvons, un instant, réfléchir à la beauté de cette parole? Vous allez me dire, mais on le connaît, je le chante depuis 35 ans, depuis 50 ans. Mes frères et sœurs, je voudrais que ce matin nous comprenions combien l'ennemi est capable de nous faire voir une partie de certaines paroles d'une manière insupportable, alors qu'à l'intérieur de ces versets, c'est extraordinaire. Jésus ne veut pas nous priver de tout le reste. Est-ce que vous comprenez? C'est la preuve, puisqu'il dit, je le répète, « Cherchez-moi en premier et toutes choses vous seront données. » Ah, mais moi, Dieu m'a refusé. Vous savez, moi, Dieu, oui, tu dis ça, pasteur. Mais moi, je voulais une piscine. Et je n'ai jamais pu l'avoir. Est-ce que Dieu sait, je vais dire peut-être quelque chose de mais enfin, ça fait rien. Est-ce que Dieu sait si un de vos enfants se serait noyé dans la piscine? Sérieusement. Est-ce que Dieu est contre qu'on ait une piscine? Ou est-ce que Dieu sait un peu mieux ce qui va nous arriver? Est-ce que vous croyez que Dieu est tout puissant? Dieu n'est pas contre la piscine. Dieu n'est pas contre la villa. On a entendu tellement d'âneries. Dieu n'est pas contre que vous ayez une moto. Moi, plusieurs fois, j'ai essayé, je me suis dit, tu vas en acheter une. Puis je me suis dit, je suis tellement fort, voyez, tellement consciencieux lorsque je conduis, que je n'ai jamais eu la paix pour l'acheter. Mais Dieu n'était pas contre que j'achète un scooter. Je pense que Dieu, il était surtout pour que je ne me tue pas en scooter. Et je bénis Dieu de jamais avoir eu une moto. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas contre toutes choses. Mes frères, les jeunes, même les moins jeunes. Est-ce que vous comprenez ce drame qui se passe en Sophonie? Pourquoi Dieu est obligé de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vais être obligé de faire? Ben d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Et quand il te dit, pour la 250e fois, mon fils, ma fille, si tu cherches premièrement le royaume, je te dis que tout te sera donné par-dessus. Alléluia. Il n'est pas contre le tout, mes frères et sœurs. C'est l'ennemi qui vous trompe. Dieu, il veut vous donner toutes choses. Alléluia. Il faut le croire. Vous le croyez, ça, mes frères et sœurs? Quand on en arrive imperceptiblement à avoir un autre Dieu que Dieu, c'est que vraiment, il s'est passé quelque chose de méprisant par rapport à ce que je viens de vous dire. On va lire un texte dans 2 Chroniques. J'en profite pour vous dire, n'oubliez pas d'éteindre les portables, au cas où vous l'auriez fait. Regardez bien dans 2 Chroniques. On va lire les 7 premiers versets. C'est un prophète que Dieu envoie vers son peuple parce qu'il y a longtemps que ça va mal. Des fois, il faut attendre longtemps, c'est malheureux. Hein. 2 Chroniques, chapitre 15. Vous le relirez chez vous, parce que moi, ces textes, vous comprenez bien que je les médite afin de les expliquer à l'Église. 2 Chroniques, chapitre 15, regardez ce qui se passe. Mais regardez-le bien. Et vous allez voir qu'il y a des paroles qui sont semblables aux prophéties que Jésus présente pour les derniers jours. 2 Chroniques, chapitre 15, verset 1er. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Aza, dont le roi, et lui dit, « Écoutez-moi, Aza, et tout Juda, et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. pendant longtemps, vous voyez, ça c'est des mots qui font, on les lit vite, mais je vous assure, il faudrait y réfléchir. Pendant longtemps, donc ça faisait longtemps que ça durait, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, et bien sûr, ils l'ont trouvé. Ça me fait penser, je fais une coupure. Il y a quelqu'un qui a cherché Dieu dans la Bible et qui ne l'a pas trouvé, au fait. J'y pense, ça me vient à l'esprit, je pense que le Seigneur me le donne pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a cherché Dieu, qui a cherché le Seigneur Jésus et qui ne l'a pas trouvé. Hérode, il a cherché Jésus et il ne l'a pas trouvé. Pourquoi ? Parce qu'il voulait le tuer. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Regardez mes frères, c'est un texte d'une plein d'amour. Qu'est-ce que dit ce texte ? Dieu envoie son prophète. Même ça fait longtemps que ça va mal. Mais ça fait rien. Enfin oui, moi je bénis Dieu pour ça. Vous ne trouvez pas ça merveilleux ? Le Seigneur aurait pu dire, écoutez, ça fait longtemps maintenant, j'en vois plus personne. Non. Ça fait longtemps que ça ne va pas. Dieu envoie un prophète parce que Dieu veut les bénir. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il adresse, vous tous, le roi Asa, les sacrificateurs, tout le peuple du pays, tout le monde est concerné. Ces paroles, elles s'adressent à tout le monde. Elles s'adressent au roi, elles s'adressent aux passants, elles s'adressent aux sacrificateurs, elles s'adressent aux riches, aux pauvres, elles s'adressent à tout le monde. Dieu veut bénir tout le monde. Pas bénir que le roi, il veut bénir tout le monde. Écoutez-moi, dit-il, écoutez-moi. Et je ne sais pas si on écoute. Ce matin, je sais bien, je le sais, vous savez pourquoi je le sais ? Parce que vous me voyez, vous, comme un pasteur. Mais avant d'être un pasteur, je suis quand même un chrétien. Je suis qu'un chrétien. Et je sais ce que c'est de prêcher l'évangile et de ne pas obéir. Je sais ce que c'est d'être pasteur. Oui, pasteur de l'église, pas ici, hein, mais qu'avant. Ici, je me suis tout le temps appliqué. Mais le découragement avait fait tellement de dégâts dans ma vie que je sais ce que c'est que de lire la Bible juste pour préparer des sermons. Je le sais. C'est pour ça que je sais très bien qu'on peut être à l'église et ne pas aller bien du tout. Et que ça peut durer longtemps. Et heureusement que Dieu est bon et patient. Moi, je vous assure, ces deux mots, pendant longtemps, ça me fait du bien. Parce que je sais que le Seigneur, il est prêt à nous bénir, même si ça fait longtemps que ça ne va pas. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui dit ce matin, mais c'est vrai, il a raison, ça fait longtemps que mon foyer ne va pas bien. Est-ce que Dieu me juge ? Est-ce que Dieu va m'aider ? Eh bien oui, la preuve. C'est pour ça que je vous dis que ces textes, ils sont remplis de miséricorde. Mais il y en a un qui va se charger de ne pas nous la faire voir, la miséricorde de Dieu. Croyez-moi, il y en a un, il va se charger de nous faire voir dans un texte comme celui de Sophonie. C'est vrai qu'il y a peut-être 10 ans en arrière, j'aurais pas été capable de vous l'expliquer, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je vois bien combien tout est écrit pour qu'on puisse faire des progrès avec lui. Oui, vous tous, écoutez-moi. Toi qui es en train de t'enfoncer petit à petit, toi qui as longtemps qui t'enfonce, longtemps, et qui est là pourtant. C'est vrai, mon foyer, ça va pas, ça fait des années que je prie pas avec ma femme. Vous croyez pas que c'est une bénédiction d'avoir un conjoint chrétien ? Sérieusement, vous avez un conjoint chrétien ? Est-ce que votre femme est chrétienne ? Est-ce que c'est une grâce ? Les frères et sœurs qui n'ont pas de conjoint croyant, vous seriez pas heureux d'avoir un conjoint chrétien ? Madame Loupiac, vous ne seriez pas heureuse de prier avec votre mari ? Qu'est-ce que vous penseriez de deux chrétiens qui prient, d'un couple chrétien qui ne prie pas ensemble ? Vous direz, quel dommage ! On n'est pas là pour juger, moi je vous assure. Il y a longtemps que j'ai passé cette étape d'utiliser un texte pour culpabiliser, c'est tellement facile. Moi quand je lis ces textes, eh bien, je vous assure, je vois combien Dieu dans son immense souveraineté indique en même temps ce qui va se passer à la fin des temps. On le relit s'il vous plaît ? Regardez qu'est-ce qui se passe. Ni vrai Dieu. Vous croyez que dans nos églises, il n'y a pas un autre Jésus que le Seigneur Jésus ? Quand les gens rentrent dans l'église sans passer par la repentance, vous ne croyez pas qu'il y a longtemps qu'il y a un autre Jésus dans l'église ? un autre maître, un autre seigneur. Ni sacrificateur qui enseigne, oui, il y a beaucoup de pasteurs qui n'enseignent plus la vraie parole de Dieu.
Ça c'est clair.
Dans ces temps-là, verset 5, point de sécurité. Pour ceux qui allaient et venaient, il y avait de grands troubles. Vous ne croyez pas qu'il y en a de grands troubles aujourd'hui ? Parmi les habitants du pays, les gens on se heurtait peuple contre peuple. Vous ne croyez pas que ça existe, ça ? Ville contre ville, Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Ça ne vous fait pas penser aux prophéties de la fin des temps ? Eh oui, c'est écrit, c'est intelligent. C'est intelligent, oui, c'est archi-intelligent. C'est Dieu qui parle pour qu'on comprenne bien ce qui se passe lorsqu'on ne le cherche pas. Ça rejoint Sophonie. Sophonie, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est plus facile à comprendre. Mais mes frères et sœurs, celui qui cherche Dieu, il est en sécurité, on l'a chanté. Il y a un don spirituel qui l'a dit. Vous le croyez, mes frères et sœurs, que ceux qui cherchent Dieu sont bénis ? Dieu est bon pour ceux qui le cherchent. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Chercher Dieu, ça doit être bon. Je dois dire, mais quel bonheur de chercher Dieu. Quel bonheur d'être avec lui. Si ça n'est plus le cas, vous avez enclenché. Il faut que quelqu'un vous le dise. C'est pas demain le banquier qui va vous le dire, votre patron. C'est votre pasteur qui vous le dira. Si pour vous, chercher Dieu, c'est plus une corvée qu'autre chose, vous êtes dans ce processus de sophonie premier. Vous allez finir par avoir, si vous ne vous ressaisissez pas, un maître, un autre seigneur que Dieu. De grands troubles, où ils se heurtaient, etc. Ils étaient agités par toutes sortes d'angoisses. Vous avez vu comment les gens sont angoissés ? Mettez votre confiance en Dieu et je peux vous dire que vos angoisses, elles disparaîtront. On l'a entendu, les dons spirituels l'ont rappelé. Oui, pendant longtemps. Moi, franchement, ces versets, on se dit, pourquoi c'est écrit ? Ça sert à rien. Mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a longtemps que ça va mal. Mais ce matin, même si ça fait longtemps que votre foyer ne va pas bien, vous pouvez maintenant, là, dans la seconde qui suit, prendre la résolution de dire « je vais prier avec ma femme, je vais m'occuper de mes enfants, je suis tout en train de faire des histoires à ma femme, mais c'est à moi, papa, père, de m'occuper de la spiritualité de mes enfants. » C'est facile de critiquer les femmes qu'elles font rien. Mais peut-être que c'est à moi de faire certaines choses dans la maison. Je ne sais pas où vous en êtes, Dieu le sait, et Dieu vous aime. En tous les cas, je ne sais pas, même si ça fait longtemps que ça ne va pas, le Seigneur, il va vous aider. Que Dieu soit béni. Il y a longtemps que je suis troublé. Il y avait du trouble. Il y a longtemps que je suis troublé. Seigneur, il faut que j'apprenne à te connaître. Pas que je te demande de bénir ci et de bénir là, et de bénir mon patron, et de bénir mes affaires, et de bénir ma voiture, etc. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te chercher. Chercher l'Éternel. Quelle parole ! En tous les cas, c'est l'enseignement de ce texte. Ne laissez pas ce processus s'enclencher. Le Seigneur, il le voit. Je sais que si Dieu m'a mis ça à cœur, c'est quelqu'un est concerné. C'était le peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez, Dieu ? Dieu envoie Sophonie pour parler à son peuple. C'était le peuple de Dieu, mais sans Dieu. Est-ce que vous me comprenez ? Mais aujourd'hui, nous sommes le christianisme sans Christ. Enfin, beaucoup de chrétiens sont chrétiens sans Christ. Est-ce que c'est, je l'ai bien dit, ou est-ce que c'est... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Beaucoup de chrétiens n'ont pas Christ comme maître. Ils ont Baal. Oh, monsieur, arrêtez, c'est trop grave ce que vous dites. Eh bien, vérifiez qui est votre Dieu. Vérifiez-le. Demandez, Seigneur, mais qui c'est mon Dieu ? Vous savez, il y a un texte qui me vient souvent à l'esprit quand je presse ce genre de prédication. C'est un texte, on est dans les chroniques, juste avant. Regardez, on peut le lire. Dans les rois. C'est un texte, moi, quand je l'ai médité, j'ai dit, mais c'est pas possible d'en arriver là. Regardez, c'est dans deux rois. Vous le méditerez parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer. Vous regardez la confusion qu'il y a dans le peuple de Dieu dans ce chapitre. C'est presque déroutant. Regardez, on va lire que ce qui nous intéresse. Alors, 2 Rois 17. Alors, on va lire le verset 28 le verset 32, le verset 33. Regardez avec moi, s'il vous plaît. Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous enseigne comment aimer Dieu et le craindre. Verset 32. Vous y êtes ? Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Sans commentaire. Vous avez vu la confusion ? Mais beaucoup. Alors on me dit, mais c'est grave. Oui, c'est grave. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont exactement dans le même cas de figure ? Ils aiment Dieu et en même temps, ils aiment Baal, un autre Dieu. Un christianisme sans Christ. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises. D'ailleurs, si la prophétie de la parabole des talents indique bien que 5 chrétiens sur 10 ne seront pas prêts, c'est parce que les 5 chrétiens sur 10 ont enclenché ce processus de rétrogradation. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ont une lampe, l'image de la dénomination. Vous savez, les vierges qui ont une lampe, c'est l'image d'une dénomination. Moi, je suis pentecôtiste. Et toi, tu es baptiste. Ah, on a notre lampe. Le problème, ce n'est pas d'avoir une lampe. Le problème, c'est d'avoir de l'huile en réserve. Et lorsqu'on ne cherche pas Dieu, oui, on pourrait prendre d'autres textes. Mais c'est un processus. Comme Jonathan répétait, enseigner l'inverse ce matin dans la Sainte-Seine. Un processus de sanctification. Il y a un processus de rétrogradation. C'est l'un ou l'autre. On avance ou on recule. La Bible dit chercher l'Éternel au début. C'est ça, attendez. Chercher l'Éternel au début de votre vie chrétienne. C'est ça qui est écrit. Chercher l'Éternel en tout temps. Tout le monde doit chercher Dieu. Les enfants qui sont allés à l'école du dimanche, on leur enseigne à chercher Dieu. En ce moment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a peut-être une cinquantaine d'enfants à côté. Les animateurs ont le devoir de leur apprendre à chercher Dieu. Les jeunes doivent chercher Dieu, oui ou non ? Les adultes doivent chercher Dieu. Les personnes âgées, est-ce qu'elles doivent chercher Dieu ou est-ce que c'est fait ? Ben non, c'est fait, non, quand on est âgé ? Non ? Monsieur de Dieu, vous avez besoin de chercher Dieu ? Non ? Est-ce que les personnes âgées doivent chercher Dieu ? Oui, en tout temps, on doit chercher Dieu. Et l'ennemi nous fait croire, mais tu l'as trouvé, tu l'as rencontré. C'est bon, c'est déjà fait. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Quelle grâce de le chercher, mes frères et sœurs. Quelle grâce. Il vous attend, ces textes. Vous voyez, c'est vrai que je le sais en prêchant, c'est tellement facile de culpabiliser. Mais que vous le vouliez ou non, plus vous connaissez Dieu, plus vous voyez dans tous ces textes une invitation. Vous le voyez comme moi ? Une grâce de dire, Seigneur, tu m'attends. Tu m'attends dans ma chambre, tu m'attends dans mon salon, tu m'attends avec ta parole. Je vais faire comme la prophétie le disait, comme Samuel qui ne laissait tomber à terre aucune parole. Je vais. Vous voyez, je vous le dis, c'est ma petite expérience. Vous savez que je vais tout à l'heure annoncer dans les annonces que M. Bordeneuve a perdu un de ses fils. Mais hier, je lisais et je disais, Seigneur, donne-moi 3 versets pour les obsèques. Et j'ai passé du temps, vous le comprenez. Et Dieu m'a donné 3 versets. Mais ça a pris des heures. Vous croyez que ça vient tout seul parce que je connais la Bible ? Quelle joie de savoir qu'aux obsèques, il y aura un verset ou deux qui vont consoler cette famille. Il est bon de chercher l'Éternel. C'est écrit je ne sais pas combien de fois. Quand on cherche, on se trouve dans le royaume de Dieu. Et tout le reste, vous entendez ? Ça, le diable, il ne veut pas que vous l'entendiez peut-être de cette façon. Tout le reste vous sera donné. Mes frères, je ne sais pas si c'est clair quand je prêche. Vous entendez ? Si tu cherches Jésus-Christ, si tu le cherches à lui, tout le reste te sera donné par-dessus. Et ça, il te faut l'entendre. Même si tu l'as chanté 2000 fois, il te faut ce matin entendre. Mais c'est vrai, quelle grâce ! Tout le reste me sera donné. Moi, je crois que plusieurs l'ont vécu, ça. Il n'y en a pas plusieurs qui l'ont expérimenté dans votre couple, dans votre maison. Vous ne l'avez pas expérimenté. Oui, tout le reste m'a été donné, sauf ce qui aurait pu me nuire. Ne devenez pas grincheux parce que Dieu vous a refusé le saut en parachute. J'avais demandé de faire un saut en parachute. La première fois j'y étais, le pilote, il était malade. La deuxième fois j'y étais, c'était l'avion qui était malade. La troisième fois j'y étais, c'est ma voiture qui est tombée en panne. Peut-être que ça serait bien que vous alliez faire une promenade en cheval. Vous croyez pas que... Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens qui sont devenus aigris, ils sont en colère contre Dieu, j'avais demandé ça, c'est pas vrai! Mes frères et sœurs, si Jésus a dit que toutes choses vous seront données, moi je vous le dis de la part de Dieu, toutes choses vous seront données par-dessus. Mais mettons-le en premier, et avec grâce, et ne considérez pas ces textes archi-compliqués, c'est vrai. Moi, Sophonie, la première fois que j'ai lu Sophonie, j'ai changé de livre, alors, ben, moi, il y a 35 ans. Mais aujourd'hui, je dis, Seigneur, ces textes, on peut les utiliser. Moi, je ne veux pas un autre Seigneur dans ma vie que notre Dieu Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, si vous le cherchez, vous le trouverez. J'ai parlé tout à l'heure de Hérode qui l'a cherché, il ne l'a pas trouvé. Si vous ne le cherchez pas bien, vous ne le trouverez pas. Mais moi, quand je lis les évangiles, que ce soit un aveugle, des lépreux, des malades, des pauvres, des riches, des instruits, des religieux, tous ceux qui l'ont cherché. Même Zachée qui était petit, qui était empêché, il est monté sur un arbre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est arrêté. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous ne le trouvez pas, c'est que vous ne le cherchez pas. Ne commencez pas à vous mettre en tête que quand vous allez passer devant Dieu, vous aurez le toupet de lui dire, « Seigneur, je t'ai cherché, je ne t'ai pas trouvé. » Ça va très, très mal se passer. Si vous cherchez le Seigneur Jésus, vous le trouverez. Même si ça fait longtemps que vous faites du yo-yo spirituel, si vous le cherchez, si ça fait longtemps, Dieu ne vous condamne pas, Dieu te dit, « Cherche-moi et tu vivras. » Et tout te sera donné. Quelle grâce, mes frères et sœurs! Quelle grâce! Ne dites pas, je l'ai cherché, je le connais, moi, vous savez. Moi, j'ai vu plein de chrétiens qui ont rétrogradé. Quand je leur disais, mais il faut lire la Bible, mais c'est quoi, je les connais, les évangiles. Mais ouais, quand on n'est pas sérieux. Alors, je voudrais terminer, avant qu'on donne l'occasion, peut-être quelqu'un de compris pour lui. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, vous connaissez ce texte, je l'ai souvent utilisé, mais quand même, je l'ai à cœur. Luc 21, quand Jésus parle de ces temps difficiles, vous le connaissez par cœur, ce texte. Je l'ai trop souvent lu. Luc 21. Je termine avec ça, c'est ma conclusion. Je voudrais qu'on soit sérieux, mes frères et sœurs. Il y a trop de chrétiens qui sont engagés dans ce processus. Il y a trop de vierges folles. Je ne dis pas ici forcément à Saint-Anne, mais c'est sûr qu'il doit y en avoir quelques-uns. C'est sûr. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même. De crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger. Vous voyez, dans certains pays, c'est la persécution. Mais peut-être que chez nous, dans nos pays, c'est l'abondance. Parce qu'on se plaît, mais quand même. Les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie. Est-ce que c'est normal d'avoir des soucis? Bien sûr, est-ce qu'on a des soucis? Oui, c'est une chose d'avoir des soucis et de les déposer. Et ça n'est une autre que d'entretenir ces soucis, de ne jamais les déposer. Vous comprenez? Ça devient un piège. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de... Non, de toute la terre. Ça viendra sur tout le monde. Veillez donc et priez de temps en temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Qui veut être debout quand Jésus va revenir le chercher? Moi, je peux vous dire que je vais être debout. Je veux être debout. Veillez, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Je suis sûr qu'il y a des chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire veiller? Mais veiller, ça veut dire qu'il faut mettre le réveil toutes les heures pour pas que je m'endorme? C'est ça que ça veut dire, ne dormez plus? Et oui, parce que c'est ça, veiller. Il y a des gens qui l'ont pris à la lettre, qui dorment le minimum de temps pour prier. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut être attentif aux choses. C'est comme si un médecin disait à une personne malade, écoutez, votre maladie fait que... Il ne faut pas que vous preniez un kilo. Il y a des maladies comme ça, il ne faut pas grossir. Il ne faut pas que vous preniez un kilo. Qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Elle va acheter une balance? Elle va rester 24 heures sur 24 sur la balance en train de regarder si elle ne prend pas un gramme? Bien sûr que non. Mais elle va faire attention, elle va veiller à son alimentation. Et bien sûr, une fois ou deux fois par semaine, elle va se peser pour voir si... Oula, j'ai pris un kilo. Oh, oula, c'est grave. Vous voyez? Elle fait attention à sa nourriture, à son alimentation. C'est ça, veiller spirituellement, c'est la même chose, mais Est-ce que je suis prudent? Spirituellement, qu'est-ce que je vais faire de cette prédication? Est-ce que j'ai plus envie de prier? C'est ça, veillez, tiens donc, est-ce que j'ai envie de prier? C'est ça. Vous voulez du concret? Mais c'est ça. Est-ce que j'ai envie de lire ma Bible? Oh, j'ai pas envie de lire ma Bible. Ça fait un moment, j'ai pas envie. Ah ben, je vais me remettre. Seigneur, donne-moi de la soif pour ta parole. J'ai pas envie de servir. J'ai pas envie d'aller à la réunion de prière. Seigneur, aide-moi. Est-ce que le Seigneur va vous aider? C'est ça, veillez. Je m'applique. Seigneur, c'est vrai que j'ai des soucis. Ça peut arriver. Mais franchement, quand on est continuellement accablé par les soucis, c'est pas la volonté de Dieu. C'est normal d'avoir des combats. C'est normal. Mais mes frères et sœurs, que Dieu nous accorde cette grâce de ne pas le mépriser, de ne pas le dédaigner, de ne pas être indifférent à sa parole. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette prédication. Pour moi, c'est une bénédiction. Oui ou non? Ce texte, il est sévère, hein, de Sophonie. Mais qu'est-ce que vous voyez dans cette sévérité? Dans cette sévérité, vous voyez un grand Dieu qui veut qu'on puisse chanter en vérité « Et je n'aurai pas d'autre Dieu ». Le dimanche matin, Jésus-Christ, et toute la semaine, la télévision. Le dimanche matin, Jésus-Christ, et toute la semaine, le monde. Non. On peut, tout vous sera donné. Vous aimez la couture? Eh bien, vous pouvez regarder une émission sur la couture. Moi, c'est ce que je fais, vous comprenez? Est-ce que c'est mal de regarder une émission sur la couture? D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez venir me trouver. Est-ce que vous seriez choqué si je regardais une émission sur la couture? Non, vous ne seriez pas choqué. Il y a des couturiers. Meilleurs que... Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous ne seriez pas choqué si je regardais quelque chose de malsain? Je vous le dis, mes frères et sœurs, parce que vous souriez, parce que la façon dont je vous le dis vous prête à sourire. Mais je crois que toutes choses nous seront données. Il est grand, notre Seigneur. Et je voudrais vraiment que l'on puisse se recueillir quelques instants. Avec beaucoup de reconnaissance, même si ces textes, dans un premier temps, pourraient être utilisés d'une mauvaise façon. Peut-être qu'il y a longtemps que ça ne va pas. Mais moi, quand je lis ces textes, moi, j'ai envie de te dire, mon frère, ça fait longtemps que tu ne pries pas avec ta femme. Ça fait longtemps que tu ne t'occupes pas de tes enfants. Ça fait longtemps que tu n'as pas envie de prier. Eh bien, Dieu t'invite. Dieu ne dit pas, c'est trop tard. Non. Ce matin, Dieu te dit, je t'invite, mon fils. Je t'invite, ma fille, à me chercher. Et si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches en premier, je vous le redis, mes frères et sœurs, parce que je sais que l'ennemi a réussi à coincer quelques-uns. Si tu me cherches en premier, tout le reste te sera donné. C'est Dieu qui te le dit, c'est pas moi. Écoute bien, jeune homme, jeune fille, vous qui voulez prendre le baptême, c'est pas du chantage, c'est la vérité. Si tu mets Dieu en premier, toute chose, tout, te sera donné par-dessus. On lui demande sa grâce. Restons recueillis. Vraiment, faites-le sérieusement. Demandez-lui de l'aide. Demandez-lui de l'aide. On va le faire tous ensemble. Notre Père, notre Dieu, ce que nous avons chanté tout à l'heure, nous voulons que ce soit la vérité, que nous n'aurons pas un autre maître et pas un autre Seigneur que toi. Et tu vois tous ceux qui sont concernés, hélas, par cette exhortation. Tous ceux qui, insidieusement, se sont mis à avoir un autre maître que toi. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Délivre-les. Nous croyons vraiment que tu es là pour nous aider. Que tous ces textes sont d'une profonde intelligence. Pour que tu sois toujours notre maître et notre Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Amen.